Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures d'information, médias et culture au sens large, même très large. Une actualité dominée par la disparition de Jacques Chirac. Chirac, un animal politique, mais également une bête médiatique et un véritable ami des arts. On lui doit notamment le musée du Quai Branly et son action en faveur des arts premiers. Alors, ce sera une émission un peu particulière aujourd'hui. Ça reste Culture Média, mais nous serons avec Jacques Toubon, l'un de ses très très proches du Dernier Carré. Les journalistes Christine Claire, qui a écrit 4 livres sur lui, Jean-Pierre Elkabbach, que vous avez entendu et qu'on ne présente plus. Claire Chazal va venir également, elle lance une nouvelle émission sur France 5, mais elle a évidemment souvent rencontré Jacques Chirac. Robert Charlebois sera notre invité également pour un nouveau disque, un concert incroyable, mais il a aussi des anecdotes savoureuses sur l'ancien président de la République. Et nous serons même avec Jean-François Alain, auteur historique des Guignols. C'est lui qui a inventé ce fameux slogan.
Mangez les pommes !
Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desereaux de Pure Média pour les audiences. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Alors, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé? Les audiences d'hier ont été bouleversées à la mi-journée à l'annonce de la mort de Jacques Chirac.
Oui, la dépêche AFP annonçant la mort de l'ancien président est tombée hier à 11h58 et une heure plus tard, toutes les grandes chaînes étaient en édition spéciale. On précisera que les chaînes info ont immédiatement basculé en édition spéciale, mais on ne connaîtra les chiffres les concernant que plus tard dans la matinée. Alors France 2 a été la première à prendre l'antenne dès midi 25. La 2 qui a consacré son antenne à l'ancien président jusqu'à 1h du matin, soit un total de plus de 12 heures d'antenne consécutive. À la mi-journée, l'édition spéciale a démarré avec Marie-Sophie Lacaro et s'est poursuivie jusqu'à 16h. Et en termes d'audience, 1 200 000 Français, 13,6% du public, étaient devant France 2. À 16h, on avait ensuite un documentaire, toujours sur France 2, un documentaire de Laurent Delahousse, Jacques Chirac, l'homme qui ne voulait pas être président. Un documentaire qui a été suivi par 687 000 personnes, 10% du public. Il y avait ensuite de 17h50 à 20h, une édition spéciale animée par Anne-Sophie Lapix. 1 million de personnes étaient au rendez-vous, 7,3% du public. Sur TF1, Jean-Pierre Pernaut a pris les commandes d'une édition spéciale du 13h à partir de midi 45. 4 400 000 personnes étaient au rendez-vous, 38,9% du public. Sur France 3, le 12-13 régional puis le 12-13 national étaient en édition spéciale. 1 400 000 personnes, 13% du public. M6 aussi, M6 qui est moins identifié sur l'information. Ouais. M6 aussi était mobilisé. Karine Gueoc était à la tête d'une édition spéciale du 12-45 qui s'est prolongée jusqu'à 13h50. 685 000 personnes, 6,1% du public étaient présents devant la 6. La 6 qui proposait également l'après-midi une rediffusion d'un documentaire qui s'appelait Chirac, qui était donc consacré à l'ancien président. Ce documentaire jusqu'à 15h40, ce documentaire de François-Xavier Dupuis et Jean-Marie Goy a rassemblé 405 000 personnes, 5,3% du public.
Et puis les audiences de l'allocution d'Emmanuel Macron aux 20h.
Oui, le chef de l'État qui a proposé une allocution télévisée de 10 minutes au cours de laquelle il a salué un grand Français. Allocution enregistrée qui a été retransmise sur TF1, France 2 et M6 entre 20h et 20h10. Sur les trois chaînes, l'allocution du président de la République a été suivie par un total de 11 800 000 personnes. Dans le détail, 5 300 000 sur TF1, 4 millions sur France 2 et 2 400 000 sur M6.
Merci beaucoup Pierre Desereaux, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
On passe au journal des médias avec vous, Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Philippe.
Il fallait que je retrouve mon... Ah voilà, on va revenir évidemment. Non, il faut que je retrouve ma bonne page.
Mais vous voulez que j'y aille?
J'y vais. Oui, allez-y, si allez-y, démarrez, qu'est-ce qu'il y a au sommet?
Eh oui, voilà, je vous donne le menu du jour, le volet qui porte l'équipe, une ancienne Miss Météo qui refait vos maisons, un magazine qui se fait une peau neuve et bien sûr, un ancien président qui fait bugger les médias.
Alors allez-y.
On commence avec quelques mots donc concernant la mort de Jacques Chirac. Le premier mot est un chiffre en fait, 60 comme 61 de journaux et magazines qui rendent hommage à l'ancien président. Si vous voulez les voir toutes d'un coup d'œil, allez faire un tour sur le compte Twitter de notre confrère Cyril Petit du JDD qui les a toutes répertoriées et collées ensemble. Je vous donne quelques titres. La duo grand, tellement français, l'homme qui aimait les gens, un destin français, la fin d'une époque et bien entendu la formidable une de Libération sans chichi où Jacques Chirac se cache le visage de sa grande main.
La mort de Jacques Chirac hier qui a provoqué une petite bizarrerie à la télé.
Et cette étrangeté a eu lieu du côté de TF1. Il a fallu 49 minutes entre l'annonce du décès de l'ancien président de la République et la prise d'antenne de la Une par Jean-Pierre Pernaut. Un délai surprenant alors que TF1 est en général assez prompte à se mettre en branle et à mobiliser les forces vives de sa rédaction. Si au sein de la chaîne on a que LCI avait évidemment cassé son antenne et qu'il fallait, je cite, un peu de temps pour se préparer, poursuivre la diffusion des 12 coups de midi a tout de même pu sembler étrange. À titre de comparaison, Marie-Sophie Lacaro a pris l'antenne sur France 2 à 12h25, moins d'une demi-heure donc après l'officialisation de la mort de Jacques Chirac.
Et on a vérifié un décalage qui ne s'est pas ressenti sur les audiences.
Oui, au contraire, la courbe d'audience de TF1 a connu un petit pic au moment même où France 2 basculait en édition spéciale.
Alors on va revenir évidemment sur Jacques Chirac et les médias dans la suite de l'émission, mais Cyril, on va maintenant faire un tour sur le reste de l'actualité et on va parler de sport entre les Français et les joueurs de l'équipe de France de volleyball. On dirait que ça match.
Mardi, il y avait 920 000 téléspectateurs devant le quart de finale de la Coupe du Monde de volley France-Italie. Une magnifique performance pour l'équipe, comme nous le soulignait hier Pierre Desereaux. C'est un record de la chaîne, record qui devrait être battu ce soir pour la demi-finale qui opposera la France à la Serbie. Un match qui se déroule à Paris et qui sera donc diffusé sur l'équipe. Nous avons demandé au patron de la chaîne, Jérôme Sapointo, s'il s'attendait à cet enthousiasme du public.
Quand on fait l'acquisition d'une compétition, on espère toujours qu'il y ait le plus de gens possible devant leur télé. Là, on est particulièrement content et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de miser sur le volley. C'est parce que c'était en France. Et on sait que en chacun des Français sommeille un esprit de supporter. Et évidemment que le volley n'est pas la puissance du foot. Mais une fois qu'on revêt, un sportif revêt le maillot bleu, on va dire qu'il rentre dans une autre catégorie.
Grosse nouveauté également pour la chaîne L'Équipe, c'est elle qui produit toutes les images des rencontres diffusées ensuite partout dans le monde. Une première pour elle, nous avons demandé à son patron ce que cela changeait. Il répond à Alexandre Omar.
Le propre d'un signal international, c'est être impartial. Donc il ne s'agit pas d'avantager une équipe par rapport à l'autre. Il y a la vidéo en volley, l'appel à la vidéo, on la diffuse quand une des deux équipes la réclame et c'est pas nous qui avons la main dessus. Après, évidemment, on va mettre en valeur les réactions de la salle. Et bien, quand on est comme un pays comme la France, on peut imaginer qu'il y a plus de supporters français que d'Italiens ou de Serbes ce soir. Mais il n'y a pas de demande particulière, nous on doit être impartial.
Alors on dit allez les Bleus, et s'ils gagnent, vous pouvez déjà noter que la finale va se dérouler dimanche et qu'elle sera bien entendu diffusée sur la chaîne L'Équipe, équipe de France ou pas équipe de France. Alors Cyril, autre sujet du jour, un nouveau chapitre pour M, le magazine du Monde.
L'hebdomadaire qui vient de fêter ses 8 ans veut se donner un petit coup de jeune. Après 400 numéros, c'est toujours un pari. Nous avons demandé à Marie-Pierre Lannelong, sa directrice, de nous dire comment elle voyait la suite de cette aventure.
Il nous semblait que c'était le moment pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre en essayant de faire un peu évoluer le magazine. Et puis dans le même temps, on va lancer un podcast et dans le même temps, on va essayer de développer beaucoup plus notre compte Instagram parce qu'il nous semble que c'est un média qui correspond bien au magazine, qui est un magazine de mots et aussi un magazine d'images.
Le nouveau numéro de M, le magazine du Monde, ce matin dans les kiosques.
Une ex-Miss Météo de Canal+, que je connais bien, qui se mue en architecte d'intérieur.
Oui, vous vous souvenez peut-être de Cécile Siméon qui avait succédé à Mademoiselle Agnès en 1992 sur le plateau Nulle Part Ailleurs. Eh bien, les amateurs de déco vont désormais la retrouver dans la maison France 5. Je vous donne en mille sur France 5.
Ah oui.
Si cela surprendra peut-être le grand public. En fait, rien d'étonnant à l'avoir intégré l'équipe de l'émission depuis 6 ans. Cécile Siméon a lancé son entreprise et est devenue architecte d'intérieur. On l'écoute nous dire ce qu'elle espère apporter au programme. Elle est interrogée par Louise Bernard.
Que ce soit pour la télé ou dans la vraie vie, je m'approprie le projet tout en écoutant beaucoup mes clients, parce qu'il faut quand même bien les connaître, connaître leurs goûts, leurs envies, ne pas non plus les emmener là où ils n'ont pas envie d'aller. Donc amener ce que j'aime moi, c'est-à-dire effectivement une ambiance plutôt cosy en général, chaleureuse, et effectivement répondre aussi à leurs problématiques.
Cécile Siméon, nouvelle recrue de la maison France 5.
Enfin, pour terminer ce journal, je vous propose de revenir sur la soirée d'hier et réécouter un passage qui restera probablement comme un des moments les plus touchants de cette journée d'hommage. Alain Juppé était sur le plateau du 20h de France 2. Les yeux rougis, il dit toute son affection pour Jacques Chirac.
Je voudrais d'abord vous dire que ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père. Mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque qui, je crois, est assez unique dans la vie politique.
Une séquence d'autant plus touchante qu'Alain Juppé laisse rarement apercevoir ce genre d'émotion.
J'étais devant et j'ai ressenti la même chose. Merci beaucoup Cyril pour ce tour de l'actu des médias. On se retrouve lundi.
À la nuit.
Culture Média, émission spéciale au lendemain de la disparition de Jacques Chirac. On en parle ce matin avec nos invités Philippe Vandel et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Un culture média où on continue, Philippe, à parler dans l'infomédia du jour de Jacques Chirac qui nous a quittés hier et qui a marqué la vie politique française.
Oui, c'est évidemment la disparition de Jacques Chirac qui fait la une de tous les journaux aujourd'hui. Hier, les chaînes d'info, mais également les grandes chaînes ont cassé leur antenne et diffusé des émissions spéciales. Une information qui vient de tomber, on vient de l'apprendre, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse aux côtés de sa fille Laurence. Jacques Chirac est un animal politique, c'était également une bête médiatique. Quels étaient ses rapports avec les journalistes? Que livrait-il? Que gardait-il pour lui? Pour en parler, je reçois Christine Claire. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié dans les années 90 le journal intime de Jacques Chirac. C'est en 4 tomes chez Albin Michel. Et je reçois Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes tous les matins sur CNews à 8h15 pour l'interview politique. Et vous avez vous aussi également très bien connu Jacques Chirac. Christine Claire, c'était facile de travailler avec Jacques Chirac?
Pas si facile, malgré les apparences de cordialité, d'ouverture. Moi, je l'ai connu comme ministre de l'Agriculture. À l'époque, j'étais journaliste agricole et sociale. Et il était dans sa phase anti-européenne. Et puis, il a fait des grandes déclarations qu'on a appelées l'appel de Cochin contre l'entrée de la France dans l'Europe. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Bernadette Chirac. Et Bernadette Chirac, à l'époque, ne voyait pas du tout les journalistes. Mais elle m'a dit, je suis allée la voir en Corrèze, et elle m'a dit, ça ne peut pas durer, cette guerre contre Giscard. Et puis cette Marie-France Garraud, il y avait Marie-France Garraud
qui était une conseillère.
Qui était d'ancien conseiller de Pompidou et qui manipulait, d'après elle, le Chirac, ce sera elle ou moi. Bon. Et j'avais fait une grande interview dans Elle. Et l'interview a fait scandale, elle a republié 5 fois, Chirac m'a appelé, c'est la Bérézina, etc. Et puis j'ai cru que les choses avaient été réparées, et puis pas du tout, ça s'est envenimé parce qu'ils ont commencé à penser ou quelqu'un leur a dit que je devais être au service de Giscard, c'était la
Ah bon, ça commence
guerre.
Mal votre carrière avec Chirac.
Finalement, j'ai été carrément en quarantaine pendant quelques années.
Donc c'était pas facile
années.
Alors.
Non,
donc vous répondez
pas facile.
À une partie de ma
question. Il avait ses journalistes de confiance, si ouais. Je peux dire, depuis des années, et vis-à-vis des autres, il était extraordinairement méfiant. Et quand Claude Chirac a commencé à s'occuper de sa communication, j'allais dire, ça a été pire pendant un moment.
Alors, avant de donner la parole à Jean-Pierre Elkabbach, je précise quand même, vous avez réussi à écrire 4 livres sur lui, mais sans le voir ou tout en le voyant?
Tout en le voyant quand même, mais je l'ai revu après en campagne présidentielle, il est devenu beaucoup plus, j'allais dire, aimable, en tout cas ouvert aux journalistes.
Même question.
Et j'ai revu Bernadette, mais puis après on s'est de nouveau fâchés. Enfin, je vous expliquerai pourquoi. Ouais.
Même question, Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce qu'il a été facile de travailler avec Jacques Chirac? Étiez-vous un journaliste de confiance?
Pas du
les
tout.
Décrits
non, pas du tout. Et ils étaient
Claire.
Rares, les journalistes de confiance. Oui. Et peut-être il y avait quelques consoeurs, surtout, qui étaient des journalistes de confiance. Moi, je voudrais dire que longtemps, un des drames de Jacques Chirac, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui. Et que certains de ses conseillers d'alors, de l'époque, qui le tenaient, et vous avez cité Marie-France Garraud, Pierre Juillet, l'enfermaient dans cette certitude qu'il était mauvais. Et ces doutes de Jacques Chirac sur ses propres capacités le rendaient mal à l'aise devant la presse et avec nous. Il était coincé, il était agressif. Je pense que son expression ne correspondait pas à l'ampleur de sa pensée. Il improvisait mal, il cherchait ses mots, il craignait d'aller trop loin et en général il allait nulle part. Il prenait chaque question pour une sorte d'agression contre lui et participer à des émissions longues, comme il l'a fait quelquefois, devait être pour lui une forme de calvaire ou de torture. Et pour nous, qui l'interrogeons, c'était aussi des nuits sans sommeil, je l'ai dit. Face à lui, au début de Cartes sur table avec Alain Duhamel, je pense que j'ai connu les pires moments professionnels.
Ah oui ?
Ah oui, sans aucun doute. Et Christine doit se souvenir de Denis Baudouin, qui oui. était son conseiller de presse, assez, avec
oui,
une stature,
corpulent,
etc.,
mais...
corpulent, etc., qui avait travaillé avec Georges Pompidou. Avant les émissions que nous faisions avec Alain Duhamel, les Cartes sur table, il venait près de nous, avec un mégot à la bouche, mais juste pendant le générique ou la publicité, il nous dit « Faites attention, les amis, parce qu'il est dans un état, je vous dis pas... » C'est-à-dire qu'il accroissait le
stress des deux côtés.
Le stress, la menace était vraie, parce qu'avec Jacques Chirac, tout était vrai. Et à l'époque, il était en guerre contre tout ce qui pouvait entraver sa conquête du pouvoir. Il était redoutable et redouté. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Jacques Chirac, arrive à maturité, assez âgé, président de la République. Mais quand nous l'avons connu, nous, il était grand. Il vous toisait du haut de son 1m90, il avait son charisme, il était beau, il incarnait la puissance et l'énergie. J'ai envie de dire, C'était une fringale de vie et de pouvoir. Mais... c'était un ogre et une bête dans l'arène politique.
Mais alors, c'est incroyable que vous parliez de ça, puisque c'est la question que j'avais préparée. Ensuite, je me souviens quand moi j'étais jeune, Jacques Chirac était jeune, moins que moi, mais il était jeune aussi, puisque là j'avance pour tout le monde pareillement. Et il était très très coincé, très très guindé. Il est devenu une sorte de figure du cool. Il a travaillé, ou est-ce que c'est simplement l'usure du temps, l'effet du temps, comme Mitterrand, je me souviens qu'il était très dur, ou est-ce qu'il a travaillé avec des conseillers ?
Il a été rassuré sur lui-même en gravissant, parce qu'il faut bien dire qu'il a connu beaucoup d'échecs, même s'il a occupé un nombre de postes considérables. Mais sur la présidence, à la présidence de la République, il a connu des échecs avant d'être élu.
Ouais.
Si bien qu'il était rejeté, y compris par les siens, enfin, des gens. Bon. Donc, c'était évidemment que ça engendrait un manque de confiance ou des interrogations. Et finalement, ceux qui s'occupaient de lui, et c'est à ce moment-là qu'il a fait entrer sa fille Claude, ceux qui s'occupaient de lui pensaient qu'il fallait qu'il communique le moins possible. Sous-entendu, il n'était peut-être pas très bon, finalement, ou il parlait trop.
Mais c'est incroyable, parce que quand on le voit maintenant, il est excellent.
Il est excellent.
Mais toujours trop maîtrisé.
Il
faut savoir que quand il y avait des émissions, par exemple, ou des rencontres, il était face à la presse, et au bout de la salle, il y avait Claude Chirac.
Qu'il surveillait.
Qu'il a surveillé, protégé, materné, si on peut dire, même de la part de sa fille. Il faut lui rendre hommage pour ça aussi. Elle était là, et il la regardait en permanence. Il savait s'il devait continuer ou pas continuer.
Je veux dire ce qui est incroyable dans ce que vous racontez, parce que moi, je ne l'ai pas connu. Pardonnez-moi, moi, je ne l'ai pas connu intimement comme vous. Ce qui frappait de l'extérieur, de l'autre côté du poste où j'étais, c'était au contraire sa foi en lui. Moi, je me souviens de ce moment en 95, on est en pleine campagne présidentielle. Chirac est au plus bas dans les sondages. On dit même que Balladur pourrait passer au premier tour. 9 janvier 95, Arlette Chabot ose lui demander s'il compte renoncer à sa candidature.
Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac.
Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour?
Vous voulez dire quelque chose, Jean-Pierre ?
Oui, d'abord, je me souviens très bien de cette période, parce que je présidais France Télévisions, et je sais, après les engueulades que j'ai eues, moi, de Jacques Chirac... Sur cette question ?
Il vous a appelé pour vous engueuler ?
D'un journaliste qui présentait le journal, à l'époque, Lénard, Étienne Lénard, et qui lui avait dit, en première question, « Qui êtes-vous, Monsieur Chirac ?» Il a regardé, il a dit, « Hein ? Qui je suis ?» Et quand il est sorti, il m'a appelé pour m'engueuler, qu'on lui pose de telles questions. Il faut savoir que c'était un guerrier impitoyable, que c'était un type qui a tué ses adversaires et ses compétiteurs. Et il est allé, après, d'échec en échec, et c'est ce matin sur Europe, Christine Albanel, qui a travaillé avec lui pendant 22 ans, qui racontait qu'entre 88, après la défaite face à François Mitterrand, la raclée que lui avait donnée Mitterrand, Jacques Chirac était mort. Il était mort politiquement. Entre 88 et 94, personne ne pensait qu'il pouvait revenir.
Et nous non plus. L'anecdote. Et la suite, juste après ça.
L'info média du jour est consacrée à Jacques Chirac. On y revient dans un instant avec nos invités. Sachez également que vous pouvez retrouver un podcast événement sur vos plateformes d'écoute habituelles. Podcast Europe 1 sur Jacques Chirac. Chirac, une histoire française. Une série qui relate la vie de Jacques Chirac à travers des analyses, des récits, des témoignages et des archives. Culture Média revient juste après ça sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
L'info média du jour au lendemain de la disparition de Jacques Chirac lui est bien évidemment consacrée. Vous en parlez, Philippe Vandel, avec vos invités, la journaliste politique Christine Claire, Jean-Pierre Elkabbach, qui sont tous les deux avec nous dans ce studio, et Jean-François Alain, auteur des Guignols, qui est avec nous par téléphone.
Bonjour Jean-François Alain.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour
à
tous.
Vous êtes l'un des auteurs historiques des Guignols, la grande époque, comme on dit, avec avec Benoît Delépine et Bruno Gassiot. Les Guignols qu'ont fait Jacques Chirac un personnage absolument extraordinaire, sinon votre meilleur personnage. Je vais dire les choses de manière cool, Jean-François, c'est vous qui avez inventé les couteaux plantés dans le dos par le clan Balladur, mon boulot de dans 2 ans, et puis surtout ce slogan qu'on va entendre.
Compagnons, mangez des pommes !
Il y a une histoire derrière ce slogan.
Oui, alors il y a une histoire, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout ça est un peu ancien. Aujourd'hui, on entend que c'était le slogan de Jacques Chirac pendant sa campagne présidentielle, mais pas du tout. Ça venait d'un livre, programme qu'il avait sorti, qui s'appelait « La France pour tous », je crois. Ouais. Et donc nous, évidemment, on travaillait sur l'image publique des personnages, et non pas sur les vraies personnalités. Et donc notre PPDA avait reçu Jacques Chirac et trouvait que ce livre était vide. et elle lui disait bon bah ce programme est un peu vide et mais par contre il y a un petit pommier devant et pourquoi il y a un petit pommier? Et donc la marionnette de Jacques Chirac disait bah parce que j'aime bien les pommes et manger des pommes, voilà. Et ça devenait son slogan dans les guignols qui était censé contrer la vacuité de son programme, c'était manger des pommes. Ça n'a jamais été le slogan de Jacques Chirac évidemment, qui était un homme politique bien plus pertinent que cela.
Mais ce slogan l'a rendu sympathique et on dit même que c'est vous les guignols entre autres qui l'avez fait élire alors qu'il partait battu.
Oui, j'ai entendu ça encore la semaine dernière. Quelqu'un de TF1 m'a dit que les guignols avaient fait élire Jacques Chirac, et je pense que TF1 a fait plus de mal à la France quand même en 30 ans que les guignols, quand même, j'ai l'impression. Enfin, pas du tout, c'est-à-dire que nous avions un personnage, je l'ai entendu, vous l'évoquiez tout à l'heure avec vos invités, on a un personnage qui avait perdu deux fois de suite les présidentielles, qui avait une image, comme on dit, de loser, de poulidor, comme on disait à cette époque-là, et donc le duo de comédie, parce qu'on est dans la comédie aux guignols, c'est-à-dire le perdant éternel, et puis Édouard Balladur qui avait cette espèce de, comment dire,
il marchait sur l'eau.
Qui marchait sur l'eau, qui ne montrait pas d'affect, qui était sûr de lui, et on se disait, tiens, il va y avoir une trahison, est-ce qu'il y aura une trahison? Et de montrer Jacques Chirac, comme le disait M. Cabache tout à l'heure, un peu tendu, un peu énervé, comme on le connaissait sur les plateaux, ça donne un duo de comédie qui est formidable, puisque nous faisions de la comédie, ou nous essayons de le faire, et donc évidemment, on a creusé ça. Et on sait bien que dans ces cas-là, que ce soit dans Laurel et Hardy, ou Jerry Lewis, Dean Martin, bah celui qui est énervé est celui qui fait le plus rire, celui qui est le plus sympathique. Le clown blanc l'est beaucoup moins. Et Balladur jouait le rôle du clown blanc.
Et alors, je crois, une anecdote pour finir, je crois qu'il vous a invité à dîner.
Alors, il nous a invités parce qu'à l'époque, Thierry Rey, ancien champion olympique de judo, était consultant à Canal+, et c'était le gendre de Jacques Chirac.
Ouais.
Et plusieurs fois, il nous a dit, vous savez, ça fait beaucoup rire Jacques Chirac, il aimerait bien que vous veniez déjeuner à la maison et tout ça, et nous avons toujours refusé parce qu'on considérait que... Moi, je ne connaissais personne, même Jean-Pierre Cabache, qu'on a assez souvent caricaturé dans les guignols, sur son image publique, une fois de plus, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, et nous, on ne voulait pas rencontrer les personnes pour ne pas justement interférer avec notre travail. C'est pareil, François Mitterrand, par le biais d'André Rousselet, nous avait invité à déjeuner plusieurs fois, et on a toujours décliné.
Attendez, Jean-François, Jean-Pierre Cabache est devant moi, je ne peux pas rester à la question. Est-ce que votre marionnette vous fait rire ou vous rendez furieux?
Elle m'a fait rire longtemps, sauf vers la fin, quand on me déguisait en distributeur de patates, voleur de patates ou de quelqu'un qui giflait. Mais puisque vous faites plus les guignols et que moi je fais plus un certain nombre de choses, on pourrait se rencontrer et enfin prendre un café et rigoler ensemble.
Mais j'adorerais, en plus moi j'ai travaillé Europe 1 il y a très très longtemps et je vous avais croisé, mais évidemment. Mais je sais que c'est difficile puisque vous savez, moi je suis ami avec Patrick Timsit qui a eu sa marionnette au guignol de l'info et lui-même l'a mal vécu. Mais parce qu'on travaillait une fois de plus sur l'image publique, moi je ne connais rien de la vie privée de Jacques Chirac, je ne l'ai jamais rencontré, ni de celle de Jean-Pierre Cabache.
Merci.
Et c'est l'image publique, dur de voir ce miroir.
Oui, mais les caricatures étaient parfois osées, et dans certains cas, j'ose pas dire qu'elles pouvaient frôler aussi le racisme.
Alors, lançons pas un débat sur les caricatures, c'est pas le moment. Merci beaucoup Jean-François, je rappelle que vous êtes scénariste, vous avez écrit la série Au service de la France qui a reçu le prix du meilleur scénario, et les films OSS 117, et si je suis bien informé, le troisième est en préparation. Merci d'avoir été avec nous au pied levé, en direct, sur Europe 1.
Merci Philippe, à bientôt.
À bientôt. Christine Claire, vous voulez raconter une anecdote sur... Je vous raconte cette anecdote sur Jacques Chirac.
Oui, non, je veux dire, son image était gérée par sa fille Claude, qu'il avait suivie en campagne, puis à l'Élysée. Et l'idée de Claude, c'était de rajeunir son père, donc il ne fallait pas trop montrer sa mère, qui était plus à droite, plus...
Que les guignols appelaient maman.
Que les guignols appelaient maman. Et quand Bernadette organisait même un déjeuner pour des agriculteurs, à l'Élysée, elle arrivait au déjeuner, on lui disait ben non, madame, vous n'êtes pas conviée, alors qu'elle-même l'avait organisé. Bon, et puis il y a eu la naissance du fils de Claude et une série de photos dans Match sur 6 pages où il y avait Jacques, Claude, le petit garçon, voilà. Et pas Bernadette. Et à ce moment-là, j'ai été réconciliée avec Bernadette. Donc je fais une grande interview d'elle dans le Figaro et elle me dit le président de la République est veuf. Je ne suis personne. Elle en avait quand même ras-le-bol. Et donc, ça fait évidemment un nouveau scandale. Claude Chirac a été furieuse. J'ai été de nouveau en quarantaine. Et après, j'ai pu me réconcilier grâce à Dominique de Villepin, parce que j'allais voir Dominique de Villepin. Et Jacques Chirac entrait par hasard dans son bureau, donc avec beaucoup de cordialité.
Alors ici, l'émission s'appelle Culture Média. Et Jean-Pierre Elkabbach, Jacques Chirac n'était pas étranger à la culture. Et ce n'est pas un euphémisme.
Ça, c'est évident, on va en parler tout à l'heure. Mais à partir de 1988, je l'ai beaucoup vu. C'est pas une anecdote, mais les formules de Jacques Chirac, on les connaît tous et on va les retrouver dans la presse, orale ou écrite. Mais il envisageait de devenir antiquaire. En 88, comme il avait été écarté du pouvoir et battu par François Mitterrand, lui qui se sentait homme de culture et qui connaissait tellement toutes les civilisations africaines, asiatiques, etc., c'était des amis qu'il fréquentait volontiers. À partir de 88 et pendant ces années 88-92-13, avant de revenir, il était débarrassé des politiques, il le disait, débarrassé de nous les journalistes. Pour lui, on était nécessaires, mais on était des imposteurs, des inquisiteurs et des irresponsables.
Voilà, vous savez, c'est sûr. Vous avez fait beaucoup de radio, vous savez que le temps compte en radio, il nous reste deux minutes, je vais vous raconter l'anecdote du quai Branly.
L'anecdote du quai Branly, d'abord le quai Branly, ça n'existait pas. Nous étions sur une plage de l'île Maurice, sur l'océan Indien.
Et, avec Jacques Chirac.
Jacques Chirac était pas loin avec Bernadette Chirac. Moi, j'étais avec Nicole Avril, mon épouse. Et on lisait, chacun de son côté. Lui, il lisait des livres de la préhistoire. De la préhistoire, il faisait des fiches qui soulignaient sur la plage. Il se baignait pas, mais il lisait. Et il y a quelqu'un qui est arrivé vers nous. Nous étions tous en maillot. Et qui est venu lui dire, est-ce que vous pouvez me présenter Jacques Chirac, puisque vous êtes journaliste, vous devez le connaître. J'hésite, je vais voir Jacques Chirac. Et il me dit, alors foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille, je suis en vacances, je veux voir personne. Et à ce moment-là, Bernadette, qui était près de lui, lui dit « Mais Jacques, c'est peut-être un des nôtres, voyez-le. » Donc je vais le chercher, je le ramène, et cette personne lui dit, tous en maillot, « Merci pour ce que vous faites pour la France, pour la ville de Paris, et puis je vous remercie parce que j'ai vu dans Paris Match, sur deux pages, la photo de votre bureau qui est formidable, et vous avez mon livre sur votre bureau. » Chirac lui dit « Mon livre ? Mais j'ai pas de livre. » Il dit « Non, non, mon bureau, il n'y a rien. » Et l'autre lui dit « Oui, oui, vous avez mon livre. Je vous dis non. » Il le prend par les épaules, il le secoue, il lui dit « Il n'y a pas de livre. Il n'y en a qu'un. C'est de Jacques Kerchage sur l'Afrique. » Et l'autre lui dit « C'est moi, Kerchage. » Alors là, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils se sont embrassés. Et à partir de là, tous les soirs, nous dînions pendant une semaine ensemble. Ils parlaient des tribus africaines, des empires africains qui avaient vendu leur peuple pour l'esclavage, etc. etc. Et là, Jacques Kerchage lui a dessiné sur le sable, jour après jour, ce que devait être le musée des arts premiers. Et d'ailleurs, il s'était disputé au début parce que Chirac disait « Je veux créer un musée des arts primitifs ». Il disait « Non, Jacques, des arts premiers. Oui, Jacques, non, Jacques, non, Jacques ». Et finalement, peu à peu, on est allé vers la construction. Il faudra faire venir des pièces du musée de l'homme, des pièces de l'étranger. Kerchage était un très, très grand collectionneur. Et à partir de là, c'est parti. Et ce Kerchage, je sais qu'il faut aller vite, avait effacé sur le sable le dessin qu'il faisait. Il lui dit « Pour ça, il faut que vous soyez élu président de la République ». Et merci, c'est là qu'on a découvert la culture, l'immense culture,
d'un mot qui signifie qu'on a déjà, on est déjà en retard.
À propos de culture, ce qui m'a toujours étonné, il était passionné évidemment par les arts premiers, mais très peu par la culture française. Il ne parlait pas d'histoire de France ni de littérature française. Un jour, j'allais le voir en été. Bon, ce jour-là, il ne voulait pas parler de politique, alors il a dû parler de ce que vous voulez, de mes appétits, de mes goûts culinaires, etc. De ce que vous... Alors, voilà, j'ai dit, alors parlons de vos lectures, si vous voulez. Ah, alors cet été, j'ai lu tout. J'ai lu tout. Pas Julien Lepers.
Saint-Jean-Perse. Voilà, voilà. C'est pas Julien Lepers, Saint-Jean-Perse.
Et avec un geste de sabre comme ça, mais sans en tirer un mot, une réflexion. Et finalement, ça ne l'intéressait pas du tout. Je pense qu'il y avait dans ce message une façon de dire aux Français, vous n'êtes pas le centre du monde. Cessez de vous prendre pour le centre du monde.
Ça aussi. À l'âge de 13 ans, il n'allait pas à l'école. Et vous savez où il allait ? Il allait au musée Guimet. Et il allait suivre des cours avec un professeur qui venait de l'Union soviétique, qui était exilé à Paris sans le sou. Il allait prendre des cours.
Voilà, on parlera tout à l'heure justement du musée
universelle.
Du musée du quai Branly. Merci beaucoup Christine Claire, journaliste, éditorialiste. Merci Jean-Pierre Alcabache. Tous les matins sur CNews à 8h15 et le dimanche à 19h, ça s'appelle Sans Détour. Merci d'avoir été avec nous en direct ici.
Et c'est Claire Chazal qui est l'invité média pour la suite de l'émission sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe Vandel, on accueille Claire Chazal.
Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Philippe.
Est-ce qu'il faut vous présenter? Vous êtes journaliste, vous avez été la figure des journaux du week-end sur TF1 pendant 24 ans, après avoir présenté le journal de la nuit sur la 2. On va évidemment parler avec vous de Jacques Chirac, que vous avez évidemment connu et rencontré. Mais d'abord, votre actualité, à partir de lundi, vous démarrez une nouvelle émission. En fait, c'est pas tout à fait ça.
Oui, c'est pas tout à fait nouveau.
Vous n'avez pas changé de chaîne, c'est France 5. Vous n'avez pas changé d'horaire, c'est du lundi au vendredi à 22h20. Vous n'avez pas changé de sujet. À 20h20, pardon. Vous n'avez pas changé de sujet, c'est la culture. Vous avez changé le nom de l'émission, Entrée libre, qui devient Passage des arts. Ça commence lundi, je l'ai dit. À part le titre, qu'est-ce qui a changé ?
Effectivement, d'abord le titre a changé parce qu'il s'inscrit, j'allais dire, avant notre soirée du samedi où déjà Passage des Arts laissait la place au spectacle vivant, aux captations et aux documentaires sur les artistes que je présentais. Donc il a été logique au fond de rendre les choses un peu uniformes et d'adopter ce titre qu'on aime beaucoup. Et je dois dire que les artistes que nous avons déjà reçus aiment ce titre. C'est une émission quotidienne, donc c'est toujours la même chose. En revanche, nous allons recevoir un artiste chaque jour. Donc ce sera plus sous forme de conversation, d'un entretien chaleureux, bienveillant, parce que moi c'est mon tempérament, autour d'un univers artistique, des univers d'ailleurs très divers, je vais le dire, et évidemment autour aussi de l'actualité de l'invité, et également qui laissera la place à un sujet sur l'actualité culturelle qui permettra d'ouvrir un peu la conversation sur un autre horizon.
Alors qui seront les premiers invités par exemple ?
Là cette semaine nous allons recevoir Guillaume Gallienne, Philippe de Coufflet.
Guillaume Gallienne c'est le parrain de l'émission.
En quelque sorte, parce que Guillaume a eu la gentillesse de venir pour la première émission, donc on l'a un petit peu intitulé le parrain, mais c'est un petit clin d'œil, on l'aime beaucoup.
De Coufflet,
donc c'est la danse. Oxmo Puccino, c'est du rap et de la poésie, évidemment ça nous plaît beaucoup. Ernest Pignon-Ernest, c'est un plasticien, dessinateur et ancêtre de street art, si on peut dire. Donc c'était extrêmement éclectique, et pour nous c'est évidemment très important. Ensuite, nous allons poursuivre avec Christiane Taubira, Chiara Mastroianni, Amélie Nothomb, et puis après Jean Dujardin, Mika. Donc à la fois, nous allons évidemment recevoir avec grand plaisir des artistes très connus, mais aussi le fait que nous en recevons un chaque jour va nous permettre d'explorer des univers un peu plus pointus, des auteurs de premiers romans, des jeunes chanteurs. Nous allons aussi recevoir Julie Fuchs la semaine prochaine.
Je ne sais pas qui est Julie Fuchs.
Julie Fuchs, c'est une soprano merveilleuse. C'est de la génération des artistes lyriques français, une des plus brillantes. Elle a 35 ans et elle est en ce moment dans les Indes Galantes, dans une mise en scène qui décoiffe beaucoup de Clément Cogitor. Donc c'est une des artistes lyriques français dont on parle beaucoup. Voilà.
Il y aura toujours des reportages, comme autrefois ?
Alors il y a donc il y aura moins, puisque l'idée c'est plutôt de donner la parole aux artistes qui viennent converser avec moi. Et donc l'idée c'est plutôt de leur laisser la parole et de leur proposer encore une fois un sujet majeur. Donc il y a bien sûr un portrait d'eux et un sujet qui leur permette de parler de quelque chose qui peut les intéresser, mais qui ne connaissent pas forcément très bien. Par exemple Oxmo Puccino, nous lui avons proposé un sujet sur Preti Yende, qui elle aussi est une artiste lyrique, cette sud-africaine qui a grandi dans les townships et qui fait une Traviata merveilleuse à l'Opéra Garnier, et évidemment c'est un parcours un peu similaire au sien, et ça l'a beaucoup intéressé.
France 5 a arrêté Entrée libre, vous avez failli ne pas garder l'émission, et on sait que vous êtes battu à tout prix pour sauver votre émission. Je vais vous lire un papier qui risque peut-être de ne pas vous faire plaisir, c'est dans Le Parisien. Karine Didier, qui a mené une enquête très fouillée, elle écrit « Face à la menace d'un arrêt, Claire Chazal alerte ses invités, ses proches, ses connaissances jusqu'au plus haut niveau. Retirer un programme culturel à 20h20 était compliqué à assumer politiquement par la direction de France Télévisions. En plus, dès que Claire Chazal voyait un des patrons, elle montrait des textos qu'elle s'envoyait avec Brigitte Macron. Est-ce que vous confirmez ?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je confirme ni n'infirme, je ne sais pas.
Le Parisien du 27 juillet 2019.
Je ne l'ai pas lu.
Vous ne l'avez pas lu. Bon, vous ne l'avez pas lu. Le changement, c'est que votre émission sera plus produite par une société extérieure, mais en interne à France Télévisions. Comme ça, vous serez où alors ?
Alors nous sommes justement à France Télévisions, ce qui est très agréable pour nous, d'abord parce que nous sommes au cœur.
Mais vous aurez un beau décor, je veux dire pourquoi, parce que les studios, il y a des studios au moins un, ou alors vous pouvez vous mettre sur le toit, et le décor était magnifique.
Nous n'avons pas pensé au toit, nous sommes tout simplement dans le studio du journal de 20h, qui est très grand, comme vous le savez.
Oh, il est magnifique.
Qui est une sorte de cathédrale dédiée à la formation, avec des écrans, et un peu solennel d'ailleurs. Ouais. Donc nous occupons un coin de ce studio.
studio. Je pense qu'on offre à nos invités un décor assez chaleureux. Et c'est ce vers quoi nous tendons. Alors, bien sûr, une émission quotidienne, il faut l'installer.
Ouais.
Nous y travaillons depuis un certain temps. Je pense que chaque jour, on va tirer des leçons de la veille. Et c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'on va trouver absolument nos marques.
À part les matchs de foot, nous aussi, on espère que la culture fasse de l'audience à la télé.
J'espère.
On a tous envie de ça.
Mais France 5 est de la chaîne du savoir, de la transmission. C'est très cohérent sur cette antenne, car nous arrivons après C'est à vous, qui reçoit aussi des artistes, mais qui fait aussi de la politique et de la société. Et il y a bien sûr la grande librairie. Il y a beaucoup de documentaires. Dominique Besnéard présente fait vivre le cinéma. Donc je crois que c'est très important d'être dans cette chaîne.
Et c'est très important de vous soutenir. Claire Chazal, oui. Reste avec nous.
Oui, dans Culture Média, elle nous parle de sa rentrée sur France 5 et on se retrouve juste après ça sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Claire Chazal fait sa rentrée sur France 5 avec son émission Passage des Arts et elle en parle dans Culture Média ce matin, Philippe Vandel.
On va y revenir, on va dire un mot de Jacques Chirac, vous l'avez évidemment rencontré, Claire Chazal. Quel souvenir gardez-vous de lui ?
Alors, c'est vrai qu'il a, j'allais dire, accompagné les journaux de 20h de TF1 pendant un septennat et un quinquennat, et bien sûr bien avant. Donc nous le côtoyons, nous le voyons très souvent. Alors moi je précise que je ne l'ai jamais interviewé en tant que président de la République, je l'ai beaucoup interviewé quand il était candidat.
Ouais.
J'ai toujours pensé que c'était un homme complexe, mystérieux, chaleureux et... Parfois distant. Et je le dis parce que, et ce n'est pas un mystère, moi j'ai toujours senti qu'il y avait une forme de distance qu'il établissait avec moi. Je connaissais peut-être mieux Bernadette Chirac, ou en tout cas j'avais plus de proximité avec elle.
Ouais.
Et pour une raison, je pense, qui est que j'avais écrit un livre sur Édouard Balladur et qu'il avait dû penser, mais je le comprends, il y avait évidemment une grande rivalité entre eux, notamment en 95. Et qu'à ce moment-là, peut-être que inconsciemment ou consciemment, il me mettait dans ce clan. C'est ainsi, et
avait une grande défiance.
Rien à dire.
Il avait une grande défiance des journalistes. Juste avant à ce micro, il y avait Christine Claire qui disait qu'elle-même sentait cela, et puis Jean-Pierre Cabage disait la même chose. Et puis en plus, il était parano avec Balladur.
Et oui, et à ce moment-là, il a considéré, mais rappelez-vous, nous sommes en janvier ou même février 95, Édouard Balladur est au zénith des sondages et on ne croit même pas à la possibilité de la candidature de Jacques Chirac.
Bien sûr, j'ai repassé l'extrait de la question d'Arlette Chabot. Elle dit, mais vous plaisantez, évidemment que je vais continuer. Elle dit, pensez-vous vous retirer ?
Et c'est exactement ce que nous voyons quand nous l'invitions à déjeuner. On lui disait, mais vous êtes sûr d'y aller ? Et il pensait qu'à TF1, peut-être qu'il y avait un soutien pour Édouard Balladur. Bon, et peut-être que moi je l'incarnais et c'est ainsi. En revanche, c'est quelqu'un qui, évidemment, a laissé des souvenirs très importants, peut-être pas forcément en termes de politique, mais de grands moments d'engagement personnel, bien sûr sur l'Irak et le refus de faire de la guerre en 2003,
oui.
Bien sûr sur le Veldiv et la responsabilité de l'État sous l'occupation et pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr dans sa lutte contre le handicap et son engagement auprès d'associations. Et bien sûr sur le climat, c'est quelqu'un qui avait un souffle, une humanité, qui sans doute était proche des Français, car il les aimait. Je crois que d'ailleurs aujourd'hui on voit tous les témoignages d'amitié, que les Français même qui étaient d'un autre bord lui témoignent. Et c'est un homme qui aura marqué, c'est notre temps, c'est notre époque, c'est toute une partie de notre vie.
Vous allez faire une spéciale ? Non, c'est déjà enregistré l'émission qui va passer lundi.
Oui, non, nous... Alors, bien sûr qu'en plus, il faut bien préciser que c'est un homme de culture, même s'il le cachait par pudeur ou peut-être parce qu'il n'avait il n'était pas forcément sûr de lui, il ne s'aimait pas forcément. Et nous irons au Quai Branly, nous traitons les expositions, mais nous n'allons pas faire une spéciale Jacques Chirac, non.
Claire Chazal, vous êtes également présente sur la chaîne France Info, le canal 27, oui. C'est l'hebdo Soyons Clairs, c'est toujours à la rentrée, ça a changé d'horaire.
Oui, alors depuis la rentrée, là nous sommes déjà rentrés, l'idée c'est de recevoir aussi, de donner la parole aussi, au fond je donne la parole
mais oui.
à uniquement des hommes de culture, des gens, des hommes et des femmes de culture. culture. Là, sont plutôt des philosophes, des romanciers. Enfin, c'est essentiellement des gens qui ont écrit quelque chose et qui portent un regard un peu apaisé sur l'actualité. Donc, et notre demi-heure d'entretien diffusée le samedi soir à 22h, car la chaîne France Info laisse la place à des magazines et c'est ça sa singularité. Je crois que c'est très important pour se distinguer des autres chaînes d'information.
Oh, vous savez ce que j'avais adoré au moment du lancement de la chaîne France Info ? Deux ou trois fois, vous aviez fait la météo.
Oui,
alors faut la refaire.
Ah, on m'avait demandé ça, c'était un peu une plaisanterie.
Et bien, ils ont tort de ne pas vous redemander ce petit clin d'œil.
On va leur dire. Alors, je préfère recevoir des auteurs.
Merci beaucoup, Claire Chazal. Je rappelle, Passage des Arts sur France 5, c'est du lundi au vendredi à 20h20 et ça commence ce lundi. À suivre dans Culture Média, après le rappel des titres, on va recevoir Robert Charlebois, le chanteur québécois qui a très bien connu également l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Avec lui, on va revenir sur la sortie de son nouvel album, mais aussi sur ses souvenirs. Et puis, va nous rejoindre un fidèle de Jacques Chirac, un homme du dernier carré. Il a été son ministre. Il est désormais défenseur des droits. C'est Jacques Toubon, en exclusivité pour Europe 1.